Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en 1970. Le hasard et la nécessité est un essai de philosophie des sciences dans lequel Jacques Monod, biologiste moléculaire et prix Nobel de physiologie ou médecine, tire les conséquences intellectuelles des avancées de la génétique. Son objet est moins de vulgariser la biologie moléculaire que de déterminer ce que celle-ci autorise à penser du vivant, de son évolution et de la place humaine dans la nature. Monod refuse les explications qui attribuent à la vie une intention interne, un projet cosmique ou une finalité inscrite dans le monde. Il propose plutôt une philosophie naturelle fondée sur le postulat de l'objectivité scientifique. L'ouvrage articule plusieurs niveaux, la stabilité de l'information génétique, les mécanismes de construction des organismes, la sélection naturelle et les implications éthiques d'un univers indifférent. Cette ambition explique son retentissement durable au croisement de la biologie, de la philosophie et du débat politique. Dense mais structuré, le livre défend une thèse radicale: l'ordre vivant provient de mécanismes nécessaires agissant sur des événements dont l'apparition est contingente. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la téléonomie distingue les apparences de projets et toute finalité cosmique. Le point de départ de Monod est une difficulté classique: les organismes paraissent orientés vers des fins. Un organe contribue à une fonction, un embryon se développe de façon ordonnée, un comportement favorise la survie ou la reproduction. Pour décrire cette orientation sans supposer une volonté de la nature, Monod emploie le concept de téléonomie. Il désigne une organisation qui produit des effets adaptés à une finalité apparente, tout en résultant de structures matérielles et de processus physico-chimiques. Cette distinction est décisive. Elle permet de reconnaître la spécificité du vivant, son efficacité fonctionnelle et sa cohérence, sans transformer cette cohérence en preuve de dessein. Monod vise ainsi ce qu'il nomme l'illusion animiste, la tendance à projeter sur les phénomènes naturels les catégories humaines de l'intention, du choix et du projet conscient. La téléonomie n'est donc pas une téléologie dissimulée. Les fins observables dans un organisme sont des résultats historiques stabilisés par l'évolution et exécutés par des mécanismes présents. Cette clarification donne au livre sa portée philosophique, expliquée scientifiquement: la vie ne revient pas à nier son organisation remarquable, mais à refuser d'en faire les indices d'une intention antérieure ou universelle. Deuxièmement, invariance génétique et morphogenèse expliquent la continuité organisée du vivant. Monod analyse le vivant à partir de trois propriétés liées à la téléonomie, la morphogenèse autonome et l'invariance reproductive. L'invariance désigne la capacité des êtres vivants à transmettre une information biologique avec une très grande fidélité. Dans le cadre de la biologie moléculaire, cette idée renvoie au rôle de la séquence génétique dans la conservation des structures et des fonctions au fil des générations. Cette stabilité rend possible la continuité des lignées et fournit le matériau sur lequel peut agir la sélection. La morphogenèse concerne, elle, la formation de la structure d'un organisme à partir de processus internes réglés. Monod souligne que le développement ne suppose pas une force vitale extérieure aux lois physiques. Il repose sur des interactions moléculaires, des régulations et une information héritée, même si la totalité de ces mécanismes ne se laisse pas réduire à une image simpliste du gène comme plan exhaustif. L'intérêt de cette analyse est de montrer comment une matière soumise aux lois communes peut produire des systèmes extraordinairement ordonnés. La précision de la transmission et la construction autonome ne sont pas des exceptions aux lois de la nature. Elles constituent, pour Monod, les conditions matérielles de la persistance du vivant et de son évolution. Troisièmement, le hasard des mutations devient évolution par le filtre de la sélection naturelle. La formule centrale du livre associe deux registres qui ne se confondent pas. Le hasard concerne l'apparition des variations génétiques. Elles ne surviennent pas parce qu'un organisme en aurait besoin, ni parce qu'elles viseraient une amélioration déterminée. La nécessité désigne à la fois les contraintes physico-chimiques qui régissent les mécanismes biologiques et les conséquences de la sélection naturelle sur les variations produites. Une mutation peut être transmise avec fidélité, mais elle ne se répand dans une population que si les conditions de reproduction lui sont favorables. Monod insiste ainsi sur le succès reproductif différentiel plutôt que sur une représentation vague de la lutte pour la vie. La sélection ne crée pas les innovations. Elle trie, au fil des générations, une faible part des possibilités issues d'événements contingents. Cette combinaison éclaire l'adaptation sans invoquer de direction préétablie. Un dispositif biologique très précis peut être le résultat d'une longue histoire de variations et de filtrage, non la réalisation d'un programme orienté vers un but futur. La thèse dérange parce qu'elle rompt avec les récits rassurants d'une évolution ascendante et nécessaire. L'humanité apparaît comme l'un des produits possibles de cette histoire, et non comme son aboutissement prévu. Quatrièmement, le postulat d'objectivité fonde une éthique de la connaissance sans garantie métaphysique, au-delà de la biologie. Monod défend une exigence normative acceptée, le postulat d'objectivité. La science ne peut progresser qu'en traitant les phénomènes comme indépendants des désirs, des préférences et des finalités humaines. Ce choix méthodologique devient chez lui une orientation éthique, car il demande de préférer l'examen critique des faits aux doctrines qui promettent une signification déjà donnée au monde. Monod ne prétend pas déduire mécaniquement des valeurs morales à partir de l'ADN ou de la sélection naturelle. Son argument est plus exigeant: si la nature ne porte aucun devoir inscrit dans son ordre, les humains doivent assumer la responsabilité de construire leurs normes. Cette position refuse autant le relativisme qui abandonnerait toute exigence de vérité que les systèmes qui présentent leurs prescriptions historiques, politiques ou religieuses comme objectivement garanties. La connaissance ne fournit pas un catéchisme social, mais elle impose des règles de probité, confrontation aux preuves, révisabilité des hypothèses et refus de confondre une aspiration avec un fait. Chez Monod, cette éthique constitue une réponse à la solitude métaphysique qu'il décrit. L'absence de finalité cosmique ne dispense pas de choisir. Elle rend le choix humain plus difficile et plus pleinement responsable. En dernier lieu, la critique des doctrines finalistes étant le débat de la biologie aux idéologies, le livre ne se limite pas à combattre une interprétation religieuse du vivant. Monod examine aussi des philosophies et des idéologies qui, selon lui, réintroduisent une finalité sous des formes différentes. Il conteste le vitalisme, qui postule un principe propre à la vie pour expliquer son organisation, ainsi que les visions évolutionnistes ou historiques qui prêtent au devenir une direction intrinsèque. Ces critiques de certaines lectures du marxisme ont suscité de vifs débats, car il y voit un prophétisme historique incompatible avec le caractère contingent de l'évolution et avec l'indépendance de la recherche scientifique. Cette partie doit être lue comme une intervention située dans les controverses intellectuelles du XXe siècle, non comme une réfutation définitive de toutes les théories sociales. Sa force réside dans une question persistante: une doctrine peut-elle prétendre tirer de la nature ou de l'histoire la certitude de ses fins politiques et morales? Monod répond négativement. Une explication scientifique des mécanismes ne valide pas un ordre social et aucun sens global de l'histoire ne doit remplacer l'enquête critique. Cette extension de l'analyse biologique vers les croyances collectives rend l'essai particulièrement ambitieux. Elle révèle aussi sa limite: ses conclusions philosophiques vont au-delà des résultats expérimentaux qui les inspirent et restent donc discutables. En conclusion, le hasard et la nécessité s'adressent au lecteur, prêt à suivre une argumentation exigeante située entre biologie moléculaire, théorie de l'évolution et philosophie. Les étudiants et enseignants en sciences, les philosophes des sciences, ainsi que les lecteurs intéressés par les rapports entre savoir scientifique, religion, politique et éthique y trouveront un texte de référence. Il est particulièrement utile pour apprendre à distinguer une explication mécaniste de la vie de deux caricatures opposées, la réduction de tout phénomène vivant à une formule simple et le recours à une finalité invisible dès que la complexité paraît frappante. Sa lecture aide également à comprendre pourquoi le hasard évolutif ne signifie ni désordre absolu ni absence de contrainte, mais une variation contingente filtrée par des mécanismes matériels et historiques. L'ouvrage se distingue des livres de vulgarisation biologique par son ambition philosophique explicite. Monod ne se contente pas de présenter les acquis de son époque, il demande quelles visions du monde deviennent difficiles à soutenir lorsque la génétique et la sélection naturelle sont prises au sérieux. Comparés à des essais plus contemporains, certains éléments scientifiques ont inévitablement vieilli et plusieurs inférences philosophiques demeurent contestées. Pourtant, la netteté de ces distinctions entre téléonomie et téléologie, hasard et nécessité, faits et valeurs conserve une forte puissance analytique. Le livre vaut donc moins comme manuel actualisé que comme confrontation rigoureuse avec une conception matérialiste, objectiviste et non finaliste du vivant. Si vous souhaitez soutenir Jacques Monod, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.